Pays de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il reconnaissait la nécessité de la violence en politique, mais la détestait cette violence. Croyait à l'autorité, et la détestait cette autorité. Avait critiqué tout homme et tous les hommes au pouvoir qui le considéraient très vite comme un homme impossible sur lequel on ne pouvait pas compter. Anti-totalitariste, anti-révolutionnaire, il revenait sur la polémique, sa polémique avec Jean-Paul Sartre, le Sartre furieux. Cet homme, cet intellectuel, il s'agit évidemment de Raymond Aron, invité de Jacques Pogam dans Parti pris le 11 novembre 1975.
Raymond Aron, quelle est la vérité qui vous gêne le plus ?
La découverte qui remonte à ma jeunesse, qu'entre les relations humaines telles que je les aime et les relations humaines dans la politique, il y a une incompatibilité radicale.
Et en quoi consiste cette incompatibilité ?
C'est que la politique, pour arriver au pouvoir, et plus encore la politique pour l'exercer, est dans une très large mesure, en mettant les choses au mieux, amorale, et dans un grand nombre de cas, immorale.
Est-ce cette incompatibilité qui explique que vous ayez toujours été plutôt un spectateur de la politique qu'un acteur politique ?
C'est tout au moins la raison que je me donne à moi-même pour laquelle je suis resté en marge de la politique, ou si je veux me critiquer moi-même, un voyeur de la politique et non pas un acteur politique. Mais je dois, pour être franc, puisque c'est la règle du jeu, ajouter qu'il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles je ne suis pas entré dans la politique. En particulier le fait que je suis terriblement impatient, que lorsque les gens parlent lentement, je termine leur phrase avec une grossièreté incontestable, que je supporte difficilement les imbéciles, que je supporte extraordinairement mal ceux qui ont besoin de 10 minutes pour dire ce que l'on peut dire en 3 ou en 4. La vie politique démocratique, la seule que j'aime, exige de la part des hommes politiques une patience inépuisable. J'en suis totalement dépourvu.
N'y a-t-il pas en plus une autre raison, l'absence d'un homme ?
Qui aurait pu me convaincre de m'entraîner à la politique ? En ce cas, j'aurais dû être un conseiller du prince, c'est ce qu'on a quelquefois écrit. Et lorsque Kissinger, quelquefois pour plaisanter d'ailleurs, plutôt que pour être sérieux, dit qu'il a été un de mes élèves, ce qui n'est pas vrai, je suis tout près de conclure, comme je l'ai écrit dans mon livre La République impériale, c'est que peut-être je puis être un conseiller du prince, je ne puis certainement pas être un prince, et je ne peux même pas être un conseiller du prince. Parce qu'à un moment donné, dans mon livre, je dis j'admire ces hommes que j'ai connus, qui étaient mes amis à l'université de Harvard, bons pères, bons époux, qui ordonnaient des bombardements terrifiants, et qui retournaient chez eux et dormaient paisiblement. Je ne les condamne pas, parce que je sais que la violence fait partie de la politique, mais pouvoir ordonner des actes aussi violents quand on est soi-même un homme de pensée, et puis dormir avec sérénité, ça j'en suis pas capable. Alors c'est là la vérité désagréable. Je reconnais la nécessité de la violence en politique, mais je déteste la violence.
Est-ce à dire que vous avez du mal à vous faire d'une façon générale à toute forme de vie sociale ?
Ah, pas du tout. Je m'accoutume très bien à la vie sociale entre amis. Je m'accoutume très bien à la vie sociale dans les universités. J'ai toujours eu les meilleures relations avec mes étudiants, y compris avec des étudiants gauchistes avant 68, et même après. Après 68, ils me le considéraient comme un adversaire, mais comme un adversaire digne de respect, parce qu'à leurs yeux, j'avais dit hautement et ouvertement ce que beaucoup de mes collègues n'osaient pas dire. D'autre part, je n'étais pas un mandarin de style traditionnel, car bien que politiquement je crois à la nécessité de l'autorité, à titre personnel, je déteste l'autorité. Et je déteste l'autorité à un point tel que je refuse presque toujours de donner un sujet de thèse à mes étudiants, en leur disant « c'est à vous de choisir ». Et quand ils me suggèrent un sujet de thèse que je trouve mauvais, Je leur dis pourquoi ce sujet de thèse à mes yeux est mauvais, mais s'ils insistent, je l'accepte. En d'autres termes, je suis l'homme le moins autoritaire qui soit dans la vie personnelle. Et en ce sens, la vérité qui m'est la plus désagréable est de reconnaître l'essence machiavélienne de la politique en détestant cette essence.
Vous avez parlé donc d'adversaires qu'on vous considérez comme un adversaire respectable. Quels sont dans votre vie les adversaires que vous avez le plus respectés?
C'est difficile à dire, parce que n'ayant jamais été un acteur de la vie politique, j'ai probablement critiqué tous les premiers ministres ou tous les présidents de la République, y compris le général de Gaulle. Aucun d'entre eux ne m'en a su gré, et au bout de quelques semaines ou de quelques mois, même quand j'étais d'accord avec l'orientation générale de leur politique, tous les hommes au pouvoir m'ont considéré comme un homme impossible, sur lequel on ne pouvait pas compter. Et je n'y ai pas vu malice, et je l'ai accepté, sinon avec plaisir, du moins avec résignation, car je pense être un non-conformiste, même si l'on considère que je suis d'opinion politique plutôt conservatrice. En réalité, je suis essentiellement un anti-révolutionnaire, car comme beaucoup d'hommes de ma génération, comme beaucoup d'hommes du XXe siècle, comme Solzhenitsyn, je crois, après l'expérience de tant de révolutions, que les révolutions coûtent très cher et finalement causent plus de mal que de bien, et que rares sont les circonstances où la violence révolutionnaire guérit les maux qu'elle veut guérir. Elle élimine certains maux, elle en cause d'autres. Ce qui, chez moi, est, me semble-t-il, fondamental, c'est l'anti-totalitarisme, l'anti-révolution, les deux plus ou moins liés, et tout cela remonte à mon expérience allemande entre 1931 et 1933, quand j'ai vu monter au pouvoir le national-socialisme, lorsque j'ai assisté au déchaînement des passions et de la violence, et lorsque j'ai prévu la guerre qui allait venir. Alors j'ai vécu entre 1933 et 1939, dans l'attente de la catastrophe. Je me suis hâté d'écrire mes premiers livres, me disant que peut-être je ne reviendrai pas de la guerre, ou qu'en tout cas, je ne pourrais pas reprendre mes livres si je ne les avais pas terminés. Alors cette expérience du national-socialisme allemand en Allemagne m'a marqué définitivement. Et après 1945, disons, toute ma fureur anti-totalitaire s'est tournée vers le stalinisme, ce qui m'a amené à être mis au banc de l'intelligentsia, pour avoir dit la moitié de ce que Khrouchtchev a dit dans son discours fameux au XXe congrès.
Vous êtes avant tout donc un anti-révolutionnaire, mais est-ce qu'en politique aujourd'hui on peut se définir avant tout négativement?
Je pense que oui. Comme l'a dit Malraux l'autre jour, la droite au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire ceux qui refusent la société moderne, ceux qui refusent le développement économique, ceux qui refusent les institutions démocratiques, n'existent plus. Aujourd'hui, ou on est révolutionnaire, ou on est anti-révolutionnaire. Et si l'on est anti-révolutionnaire, on est libéral et démocrate, ainsi que je le suis. Et cette définition n'est pas une définition totale, mais dans nos pays d'Europe occidentale, la question fondamentale est de savoir si l'on essaye d'améliorer progressivement nos régimes démocratiques et libéraux, ou bien si on leur substitue un régime de parti unique et de gestion intégrale de l'économie. Alors je sais bien qu'il y a des socialistes, mettons Michel Rocard, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, ou Attali, qui s'imaginent que l'on pourrait modifier fondamentalement le régime économique sans tomber dans le totalitarisme soviétique. Alors, ce qui me sépare de ces hommes que j'estime, c'est que je ne crois pas que la combinaison à laquelle ils songent soit viable. Et je pense que s'ils entreprenaient leur expérience avec le Parti communiste, ou bien ils aboutiraient rapidement à une rupture et reviendraient dans le giron de ma démocratie libérale, ou bien ils seraient entraînés par leurs partenaires vers le genre de régime plus ou moins totalitaire dont ils ne veulent pas.
Souhaiteriez-vous qu'ils aient à faire ce choix ?
Ça n'est pas une question de souhait. Je suis convaincu que s'ils en ont la possibilité et s'ils sont acculés à ce choix, ils choisiront comme moi et qu'ils essayeront de me sauver de la prison, dont d'ailleurs ils seront plus menacés que moi. Donc je ne doute pas un instant que si la contrainte du choix pèse sur eux, ils choisiront la liberté. Mais je préférerais qu'ils ne fussent pas obligés de choisir au risque de ne plus en avoir la possibilité.
Lorsque je vous ai parlé tout à l'heure d'adversaires, vous avez pensé aux adversaires politiques, mais il y a aussi ceux qui vous ont combattu sur le domaine philosophique. Je pense à Jean-Paul Sartre, par exemple.
La polémique de Jean-Paul Sartre est beaucoup plus une polémique politique avec un accent personnel qui est conforme à son style. Voyez, nous avons été très liés quand nous étions ensemble à l'école normale et nous avons discuté de tout, reconstruit le monde ensemble. Ensuite, nos relations sont restées amicales, mais Simone de Beauvoir est intervenue et à partir de ce moment-là, l'interlocuteur privilégié de Jean-Paul Sartre, c'était Simone de Beauvoir. Moi-même, je me suis marié, les relations donc ont changé. Elles sont restées distantes mais amicales jusqu'à la guerre, et j'ai eu un rôle sur son évolution dans la mesure où je lui ai fait connaître la phénoménologie et Husserl, et où je l'ai invité à aller passer une année en Allemagne pour étudier la phénoménologie, cependant que moi-même j'enseignais à sa place au lycée du Havre. Après la guerre, nous nous sommes retrouvés avec beaucoup d'affection, puis la guerre froide est intervenue, nous avons fait des choix différents. Et à partir de ces choix différents, il s'est livré, d'ailleurs un peu plus que moi, à des polémiques politico-personnelles, auxquelles je n'attache pas beaucoup d'importance. Elles ne m'ont pas atteint profondément. Il a donné une interview que je trouve ridicule au moment de 68, où il a expliqué que j'étais indigne d'enseigner, ou des conneries de cet ordre, excusez-moi de la liberté de l'expression. Mais ça, c'est le Sartre furieux. C'est le Sartre polémiste que je mets dans un petit coin du Sartre que j'estime et que j'admire, car j'admire sa fertilité philosophique, même si je ne suis pas d'accord avec lui.
Raymond Aron, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps ?
La présentation pendant des années et des années, du régime stalinien comme un régime de gauche.
Qu'est-ce que ça veut dire, un régime de gauche ?
Cela veut dire que les hommes de gauche, qui traditionnellement se réclament de l'humanisme, de la liberté et du peuple, ont considéré que le régime qui avait supprimé toutes les libertés, mis des millions et des millions de gens dans des camps de concentration, leur paraissait, à eux, faire partie du vague ensemble qu'ils appellent la gauche. Pendant des années, ils se sont refusés à condamner le régime le plus inhumain du siècle, sous prétexte que ce régime se réclamait des idées de Marx.
Plus inhumain que le régime nazi ?
Le régime hitlérien a la triste originalité d'avoir assassiné industriellement de sang-froid plusieurs millions d'êtres humains comme s'ils étaient une espèce animale nuisible qu'il fallait exterminer parce qu'elle était en tant que telle pernicieuse pour la santé des autres espèces. En ce sens, le régime hitlérien a une triste originalité qui le fait radicalement plus inhumain que tous les autres, en ce sens que les principes mêmes dont il s'est réclamé, les idées au nom desquelles il a exterminé les hommes, sont à mes yeux ce que l'on peut considérer comme le plus monstrueux. Car considérer, disons les juifs, mais je dirais de la même façon, les tziganes ou les allemands ou les français, ou n'importe quel peuple ou n'importe quelle race, comme en tant que telle une espèce animale qu'il faut exterminer, c'est à proprement parler monstrueux. car ce n'est même pas l'équivalent des massacres des temps passés. C'est quelque chose de nouveau, c'est l'application d'une façon de penser biologique aux relations entre les groupes humains. Et en ce sens, je continue à penser que si le régime stalinien l'a emporté sur le régime hitlérien, la justice y a trouvé son compte. Entre ces deux régimes qui étaient tous deux inhumains, il est bon que le régime stalinien l'ait emporté, car le régime stalinien était inhumain contre et en dépit de ses idées. Cependant que le régime hitlérien était inhumain en fonction de certaines de ses idées. Donc, en ce sens, je donne raison à votre remarque ou à votre objection. Ce que j'ajoute, c'est que lorsque je lis l'archipel Goulag, je m'aperçois que dans la pratique, ce régime a pu pousser la cruauté et l'humanité extraordinairement loin, infliger cette inhumanité à des dizaines de millions d'êtres humains en dépit de ses idées. Et disons que l'extermination des Juifs a été l'acte le plus monstrueux du siècle. Le régime stalinien étalé sur 10 ans ou 15 ans a été le régime stabilisé dans l'inhumanité le plus extravagant du siècle.
Et si vous condamnez ainsi peut-être plus le régime stalinien encore que le régime nazi, n'est-ce pas parce que...
Faites bien attention, les exterminations de peuples par Hitler, c'est plus que tout ce que le régime stalinien a fait. Mais cette extermination était pour ainsi dire un cancer monstrueux, et dans le courant des jours, le régime hitlérien, disons entre 33 ou 37 ou 38, était quantitativement moins monstrueux que le régime stalinien de la même époque. On me fera dire quelque chose que je n'ai pas dit parce que ma réponse est nuancée et subtile, mais il est bien entendu que dans le courant des jours, en 34, 35, 36, il y avait quelques dizaines de milliers d'Allemands dans des camps de concentration, il y en avait des millions en Union soviétique.
Si vous insistez justement sur ce phénomène stalinien, c'est parce que donc peut-être pour vous il y aurait d'un côté un cancer localisé.
Il n'est pas localisé parce qu'il sort des idées majeures de Hitler.
Mais est-ce qu'il peut se reproduire ce cancer ?
Tout peut se reproduire en histoire. Et je voudrais ajouter, nous ne pouvons pas savoir ce que Hitler aurait fait s'il avait gagné la guerre. Car à travers ces Tischgespräche, ces conversations à table, il y avait des plans absolument, à nos yeux, aberrants, de reconstruction de la carte biologique de l'Europe, de déportation de population, d'extermination de population. Il ne faut pas oublier que quand j'oppose la normalité du régime hitlérien entre 33 et 38, c'était les débuts d'un régime. Ce qu'il serait devenu après une victoire, nul ne le peut dire. Et on peut ajouter, malgré tout, pour défendre le régime soviétique, qu'après Staline, le régime, sans cesser d'être un régime totalitaire, n'a plus recouru aux formes extrêmes et démesurées de la violence qui était devenue endémique sous Staline. Et malgré tout, le régime soviétique se recommande d'idées qui condamnent dans une large mesure ses propres pratiques. Ce qui, malgré tout, si l'on est optimiste, ouvre certaines perspectives un peu plus riantes.
C'est-à-dire que pour vous, ce hiatus entre les principes et la réalité n'est pas dans la nature des choses de ce type de régime.
C'est un peu trop simple, ça. C'est un peu trop simple, car qui veut faire l'ange fait la bête. Qui veut créer un régime où il n'y a pas de classe, pas de différence entre les hommes? Un régime qui, dans ses traits essentiels, est probablement irréalisable, est souvent amené à devenir despotique, tyrannique et totalitaire. En d'autres termes, il se peut que l'utopie marxiste, telle qu'elle a été interprétée par les marxistes-léninistes, plus la toute-puissance du parti, conduise à un régime totalitaire, bien qu'à l'origine du marxisme, il y ait l'humanisme et la liberté.
Raymond Aron, quel est de ces dernières années l'événement qui vous laisse le plus d'espoir?
Eh bien, vous allez dire que je suis un obsédé, mais ce qui me laisse le plus d'espoir, c'est la dissidence ou l'opposition en Union soviétique. Ce qui me laisse le plus d'espoir, c'est la persistance dans le monde communiste d'une opposition à la fois libérale et religieuse. C'est l'existence d'hommes qui, tels que Solzhenitsyn ou Sakharov, qui sont pour nous des exemples d'êtres humains extraordinaires. Peut-être faut-il avoir connu la vie dans un régime totalitaire pour atteindre à ce courage tranquille d'un Sakharov à Moscou ou à cette espèce de passion éloquente et profonde d'un Solzhenitsyn dans ses livres. Je citerai simplement un livre de Solzhenitsyn, un des plus vivants, un des plus proches de l'expérience vécue et en même temps un des plus romanesques, Le Chêne et le Veau. Vous l'avez probablement lu. Il n'y a pas de livre plus extraordinaire. Cette bataille d'un homme sorti des camps contre cette espèce de monstre froid qui s'appelle la bureaucratie étatique, cette astuce de paysan que déploie Solzhenitsyn, en même temps, cette appréciation juste de ce qui est possible et non possible à chaque moment, c'est à la fois un roman et un témoignage comme il y en a peu. En même temps, c'est une description de ce que sont les hommes sous un régime de cet ordre, qui est à la fois un tribut à l'humanité qui résiste et un témoignage tragique sur, disons, les choix que les individus sont perpétuellement amenés à faire entre leur conscience et l'opportunité, entre ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils peuvent faire. Et un livre de cet ordre qui n'a pas le caractère horrible ou tragique de l'archipel Goulag me paraît, disons, à la fois un avertissement pour nos sociétés qui sont toutes menacées par les phénomènes totalitaires et un symptôme encourageant dans la mesure où il montre les hommes, leurs croyances et leurs consciences résistant à la pesanteur du régime.
Vous parlez de symboles encourageants. Est-ce que vous pensez qu'il y a dans le monde des milliers, peut-être des millions de Solzhenitsyn potentiels?
Oui et non. Solzhenitsyn est un génie littéraire. Et je suis, en dehors de toute politique, un admirateur passionné de ses romans. Même de celui qui est le plus discuté, à savoir Ou 14, que je trouve un admirable roman historique dans la grande tradition de paix et guerre. Mais je pense qu'il y a dans tous les régimes autoritaires ou totalitaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, des millions de Solzhenitsyn potentiels. C'est-à-dire, je crois très profondément, en tant que libéral, et si on ose employer une expression ridicule, en tant qu'humaniste, je crois que la conscience de l'homme résiste à la violence, à l'État, au danger, et que les régimes autoritaires ou despotiques sont les plus durables, mais que la résistance de l'individu et de sa conscience survit probablement même au régime despotique.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 novembre 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».